À mes débuts, j'étais un ayatollah du purisme. Je ne tolérais ni les anglicismes, ni les à peu près, ni l'abus de néologisme, ni les incorrections sous prétexte de modernisme. Je criais au scandale quand un auteur ne se pliait pas à la discipline de la syntaxe, ponctuait n'importe comment, s'autorisait des métaphores prétendument hardies mais incohérentes. Je biffais et redressais les phrases quand les pronoms relatifs se suivaient à la file. Puis, peu à peu, j'avais cochonné ma besogne. Je faisais tout en quatrième vitesse, ne m'abîmais plus la vue en veillant jusqu'à point d'heure pour soigner chaque détail. La plupart des récits que je corrigeais, indigestes, ne valaient pas la peine d'être améliorés, mais de temps à autre, j'avais droit à des pages sapides, comme des oranges gorgées de soleil. J'étais à mon affaire lorsqu'un modèle de concision abrégeait, condensait ces périodes, ou bien lorsqu'un texte débordait de termes rares, d'argotismes obsolètes. Moi-même, je disais volontiers « calembredaine » plutôt que « sottise ». Cela ne vaut pas un fifrelin, au lieu de cela ne vaut pas un clou. Être en Renault pour être furibond, mais aussi sans béguiner, mignoter, jaboter, avoir du foin dans ses bottes. Bref, pour ne pas parler comme un vieux, j'étais plus out que in, pas du tout à l'avant-poste de la branchitude. Peut-être les étrangers, j'en suis un, quand ils ont appris une langue non pas sur le tas mais en lisant des classiques, sont-ils plus sensibles à certaines tournures désuètes? Ils se figurent que dans leur bouche, elles ne paraissent pas anachroniques, mais sont le sceau d'une acculturation réussie. Leur ramage défend leur faciès. Leur maîtrise des finesses de la langue d'adoption est la preuve par neuf d'un enracinement dans la terre d'asile. Non contents de ressusciter l'emploi de tours anciens, ils injectent dans leur conversation des vitamines, de savoureuses expressions populaires qui authentifient leur prédilection pour les idiotismes. Moi qui ai usé mes fonds de culotte sur les bancs du lycée français de Saïgon, j'ai été abreuvé de poésie racinienne, puis initié par des camarades à l'usage du verlan. Les préciosités ne représentaient pas une difficulté pour moi, le poissard ne m'était pas obscur. Je savais l'idiome bigarré des cités avant même d'arriver à Paris. Je suis enterré au cimetière de Bobigny. J'avais eu naguère la chance d'obtenir des places pour des spectacles à la Maison de la Culture de cette banlieue, des mises en scène de Deborah Warner et de Lev Dodin. Au retour d'une de ces soirées, j'avais dit à Lou, ma femme, que j'aimerais, quand je lâcherai la rampe, avoir ma tombe près de ce théâtre. Elle m'a pris au mot. C'est à deux pas des tours balbiniennes que j'ai ma stèle. Il pleuvait à seaux le jour de mon inhumation, un mardi d'octobre. L'air était frisquet, un fort vent soufflait. Il n'y avait ni fleurs ni couronne, et il n'était qu'une poignée à m'accompagner à ma dernière demeure. Oulma, l'éternellement jeune Oulma, vêtue d'une robe sable et d'un trench beige, semblait, malgré ses talons hauts, toute menue sous son immense parapluie. Trois voisins d'immeuble, ceux que j'avais invités à ma pendaison de crémaillère, au temps où je m'efforçais encore d'établir de bonnes relations avec autrui, étaient là. Les éditeurs pour lesquels j'avais œuvré s'étaient sentis tenus de déléguer leur attaché de presse. Deux collègues, linguistes émérites, avaient fait le déplacement. Ma femme, en tailleur anthracite et gabardine grise, avait les yeux pochés et un tic nerveux au coin des lèvres. Hugues, mon frère d'armes, le janséniste de la littérature, prononça un discours sur moi. L'exilé qui possédait mieux le français que les autochtones, c'était beaucoup dire. Le liseur sagace, devenu très difficile dans le choix de ses lectures, aurait-il dû préciser. Le correcteur au stylisme poussé à l'extrême, c'était ma réputation, surfaite. Le travailleur staccanoviste, il fallait bien l'être, j'avais un salaire aux pièces. L'admirable épistolier, mais pas un écrivain manqué, dont les lettres faisaient la joie de ses correspondants. Le causeur laconique, et ne s'écoutant pas trop parler, le cinéphile fervent de Murnau et de Dreyer, mais aussi d'Eustache et de Cassavetes, de Kiarostami et de Sokourov, que de dimanches passés à revoir leurs films. Le citoyen de l'univers dénué d'idées préconçues, gloire au traducteur qui m'avait délivré des visas pour les antipodes, le bénévole consacrant ses moments de loisir à l'aménagement d'un bibliobus. J'avais la faiblesse de vouloir combattre l'illettrisme de certains immigrés. L'ami fidèle, toujours disposé à donner un coup de main, mon péché mignon était de me croire nécessaire. Le mari qui prenait garde à rompre l'inévitable uniformité de la vie conjugale, mon laudateur n'avait pas toutes les cartes en main. Le père, ni trop cool, ni trop chiatique, comme aurait dit ma fille, Hugues, le 18e-iste, utilisait des adjectifs plus recherchés, mais un rien inapproprié. En résumé, le monde perdait avec moi un excellent sujet. Ma disparition créait un vide que personne ne serait en mesure de combler. L'édition, privée d'un de ses meilleurs éléments, ne pourrait me remplacer.